Chapitre 20. Sa colère l'avait de nouveau lâché. Elle lui manquait. Le petit chariot était bondé. Malcolm, la Remington en travers des genoux, et Kez, la console avec le construct plaqué contre la poitrine. Le chariot évoluait à des vitesses pour lesquelles il n'avait pas été conçu. La surcharge le déséquilibrait dans les virages. Aussi, Malcolm avait-il décidé de se pencher vers l'intérieur des courbes. Cela ne présentait pas de problème lorsque l'engin tournait à gauche. Carquez était assis du côté opposé. Mais pour ceux à droite, le sionite devait se pencher par-dessus Kez et tout son fourbi en l'écrasant sur son siège. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Tout le secteur lui était certes familier, mais il n'aurait pu jurer d'avoir vu tel ou tel endroit précis auparavant. Ainsi, une galerie incurvée bordée de vitrines en bois présentait des collections qu'il n'avait certainement jamais vues, des crânes de grands oiseaux, des pièces de monnaie, des masques d'argent martelés. Les six pneus du chariot de service roulaient en silence sur les épaisseurs de tapis. On n'entendait que le sifflement du moteur électrique et, de temps à autre, un faible éclat du dub de Sion, libéré des oreillettes en mousse de ses écouteurs lorsqu'il s'allongeait au-dessus de Kez pour contrebalancer une épingle à droite. La console et le construct enfonçait dans sa hanche le shuriken toujours fourré dans sa poche de blouson. « T'as pas l'heure ?» demanda-t-il à Malcolm. Le sionite secoua ses tresses. « L'heure vient à son heure. »« Seigneur !» dit Kez, et il ferma les yeux. Le Brown escalada en trottinant l'amoncellement de tapis et frappa le tampon de l'une de ses griffes contre le panneau rectangulaire surdimensionné d'une porte de bois sombre et usée. Derrière eux, le chariot grésilla en lançant des étincelles bleues sous un de ses capots percés de persiennes. Les étincelles atteignirent le tapis près de l'engin et Kez sentit une odeur de laine cramée. « C'est par là, Mac ?» Malcolm lorgna la porte et fit basculer le cran de sûreté de son fusil. « Hé !» dit Kez, plus pour lui d'ailleurs que pour Malcolm. « Tu crois que je sais ?» Le Brown fit pivoter son corps sphérique et sa diode palpita. « Il veut que t'ouvre la porte !» traduisit Malcolm avec un hochement de tête. Kez s'avança et tenta de faire jouer le bouton de cuivre orné. Il y avait une plaque du même métal montée sur la porte à hauteur d'œil, si vieille que les lettres jadis gravées avaient été réduites à un code arachnéen, illisible, nom de quelque fonction ou fonctionnaire depuis longtemps disparu, poli jusqu'à l'oubli. Il se demanda vaguement si les tessiers à Spool avaient sélectionné individuellement chaque élément de lumiérante ou s'ils avaient acheté le tout en lot auprès de quelque vaste équivalent européen de la métro holographique. Les gonds de la porte émirent un grincement plaintif lorsqu'il l'entr'ouvrit, Malcolm lui passant devant avec la Remington calée contre la hanche. « Des bouquins !» dit Malcolm. La bibliothèque, les étagères d'acier blanc avec leurs étiquettes. « Je sais où nous sommes, » dit Kez. Il se retourna pour regarder le chariot de service. Un ruban de fumée s'élevait du tapis. « Allez, viens, » dit-il. « Chariot ? Chariot ?» L'engin resta immobile. Le Brown le tirait par la jambe de pantalon, lui pinçant la cheville. Il résista au violent désir de l'envoyer valser. « Ouais ?» Le Brown contourna la bibliothèque en cliquetant. Kez le suivit. Le moniteur dans la bibliothèque était un autre Sony, aussi antique que le premier. Le Brown s'arrêta, devant, pour exécuter une espèce de gigue. « Muet d'hiver ?» Les traits familiers emplirent l'écran. Le Finnois souriait. « Il est temps de s'y mettre, Kez, » dit le Finnois, les yeux plissés derrière la fumée d'une cigarette. « Allez, Toto !» Le Brown se jeta contre sa cheville et se mit à lui escalader la jambe, les manipulateurs lui pinçant la peau à travers le mince tissu noir. Merde ! Il l'envoya d'une claque s'écraser contre le mur. Deux de ses membres se mirent à pédaler vainement dans le vide, brassant l'air. « Mais qu'est-ce qu'il déconne, ce putain de bidule ?»« La claquer, » dit le Finnois, « laisse tomber. C'est pas un problème. Branche-toi maintenant. » Il y avait quatre prises sous l'écran. Mais une seule pouvait accepter le connecteur Hitachi. Il se brancha. « Rien, » un vide gris. Pas de matrice, pas de grille, pas de cyberspace. La console avait disparu. Ses doigts étaient, et à l'extrême lisière de sa conscience, une impression fugace, frissonnante, la sensation de quelque chose qui se ruait vers lui à travers des lieux de miroir noir. Il essaya de hurler. Il semblait y avoir une ville, par-delà la courbe de la plage, mais elle était trop loin. Il était accroupi sur le sable humide, les bras serrés autour des genoux et il tremblait. Il resta ainsi pendant ce qui lui parut un temps interminable, même après que le tremblement eut cessé. La ville, si c'était bien une ville, était basse et grise. Par instants, elle était obscurcie par des bancs de brume qui venaient rouler, amenés par la houle. À un moment, il décida que ce n'était pas du tout une ville, mais quelque édifice unique, peut-être une ruine. Il n'avait aucun moyen d'évaluer sa distance. Le sable avait la teinte de l'argent terni, pas encore entièrement noirci. La plage était de sable, la plage était très longue, le sable était humide, le fond de son jean était mouillé par le sable. Il se tenait là, les bras serrés autour de ses genoux, et se balançait en se fredonnant une chanson sans mélodie ni parole. Le ciel était d'un argent différent, Chiba, comme le ciel de Chiba. La baie de Tokyo ? Il tourna la tête pour contempler la mer. Il lui manquait le logo holographique de la Fuji Electric, le ronronnement d'un hélicoptère, n'importe quoi. Derrière lui, une mouette cria. Il frissonna. Une brise se levait. Le sable lui piqua la joue. Il posa le visage contre ses genoux et pleura. Le bruit de ses sanglots, aussi étranger et lointain que le cri de la mouette scrutatrice. De l'urine brûlante imbiba son jean, goutta sur le sable, et se refroidit rapidement dans le vent qui soufflait de la mer. Lorsque ses larmes furent taries, il avait mal à la gorge. « Muet d'hiver » marmonna-t-il entre ses genoux. « Muet d'hiver !» L'obscurité gagnait à présent, et lorsqu'il frissonna, ce fut d'un froid qui le contraignit finalement à se lever. Il avait mal aux genoux et aux coudes. Il avait le nez qui coulait. Il l'essuya contre la manche de sa veste, puis fouilla l'une après l'autre ses poches vides. « Bon Dieu !» fit-il, les épaules voûtées, glissant les doigts sous ses bras pour les réchauffer. « Bon Dieu !» Il se remit à claquer des dents. La marée avait, en se retirant, ratissé la plage avec des motifs plus subtils que ceux jamais produits par aucun jardinier zen à Tokyo. Lorsqu'il eut accompli une douzaine de pas dans la direction de la ville à présent invisible, il se retourna pour considérer les ténèbres qui s'épaississaient. Ses traces de pas remontaient jusqu'à son point d'arrivée. Il n'y avait aucune marque au-delà pour troubler le sable terni. Il estima avoir couvert au moins 1 kilomètre avant de remarquer la lumière. Il parlait avec Ratz, et c'était Ratz qui l'avait indiqué en premier. Une lueur rouge orangée sur sa droite, loin du rivage. Il savait que Ratz n'était pas vraiment là, que le barman était l'œuvre de sa propre imagination, et non de la chose au sein de laquelle il était pris au piège, mais peu importait. Il avait suscité l'homme pour avoir une manière de réconfort. Seulement Ratz professait ses propres idées quant à Kez et sa fâcheuse situation. « Franchement, monsieur l'artiste, tu me surprends. Les extrémités auxquelles tu peux aboutir pour parvenir à ta propre destruction. La superfluidité de tout ceci. À la cité de la nuit, tu y étais. Tu l'avais dans la paume de ta main. Les amphées pour te bouffer les sensations. L'alcool pour faire couler le tout. Linda pour la douce consolation et la rue pour t'achever. Jusqu'où t'a-t-il fallu donc aller pour y parvenir maintenant? Et quel grotesque décorum! Des aires de jeu suspendues dans l'espace, des châteaux hermétiquement scellés, les ringardises les plus rares sorties de la vieille Europe, des cadavres scellés dans des petites boîtes de la magie chinoise. Rigolant la patte traînante, Ratz vint à sa hauteur, avec son manipulateur rose qui lui battait le flanc. Malgré l'obscurité, Kez pouvait distinguer les broches d'acier baroque qui en serraient les dents noircies du barman. « Mais je suppose que c'est la méthode qui convient à un artiste, non ? T'avais besoin de te faire bâtir ce monde, cette plage, cet endroit pour y mourir ? Kell s'arrêta, oscilla, se tourna vers le bruit du ressac face à la brûlure du sable chassé par le vent. « Ouais, » dit-il, « merde, je suppose, oui. » Il s'avança vers le bruit. « Artiste !» entendit-il lancer Ratz. « La lumière. T'as vu une lumière ? Ici, par là. » Il s'immobilisa de nouveau, tituba, tomba à genoux dans quelques millimètres d'eau de mer glacée. « Ratz ? De la lumière ? Ratz ! » Mais l'obscurité était totale à présent. Et l'on n'entendait que le bruit des vagues. Il se releva tant bien que mal, puis essaya de revenir sur ses pas. Le temps passa, il marchait toujours. Et puis elle était là, une lueur qui se définissait de mieux en mieux à chaque pas. Un rectangle, une porte. « On fait du feu là-dedans, » dit-il, ses paroles lacérées par le vent. C'était une casemate de pierre ou de béton, enterrée sous les dépôts de sable noir. L'embrasure était basse, étroite, dépourvue de porte, et profonde, encastré dans un mur épais au moins d'un mètre. « Et là !» fit doucement Kaise. « Et !» Ses doigts caressèrent le mur froid. Il y avait un feu là-dedans, ombre vacillante sur les parois latérales de l'entrée. Il se voûta, et en trois pas se retrouva à l'intérieur. Il y avait une fille accroupie, à côté d'une espèce de cheminée d'acier rouillé, dans laquelle brûlait du bois d'épave. Le vent aspirait la fumée par un conduit cabossé. Le feu était la seule source lumineuse, et lorsque son regard croisa les grands yeux étonnés, Kaise reconnut son bandeau, le fichu roulé imprimé d'un motif comme un circuit électronique fortement grossi. Il refusa ses bras. Cette nuit, refusa la nourriture qu'elle lui offrait, la place auprès d'elle dans le nid de couverture et de mousse dilacérée. Il alla s'accroupir finalement près de la porte, et la regarda dormir, en écoutant le vent décaper les murs de la structure. Toutes les heures ou à peu près, il se levait et gagnait le poêle improvisé pour y ajouter du bois pris à la pile à côté. Rien de tout ceci n'était réel, mais le froid, c'est toujours le froid. Elle non plus n'était pas réelle, ainsi couchée, blottie en chien de fusil dans la lueur du feu. Il regardait sa bouche, ses lèvres entrouvertes. Elle était la fille telle qu'il en gardait le souvenir lors de la traversée de la baie, et c'était cruel. « Salaud ! Enculé » murmura-t-il à l'adresse du vent. « Tu prends pas de risque, hein ? Tu m'aurais pas refilé une camée, hein ? Je sais bien ce que c'est que... » Il essaya de retenir le désespoir dans sa voix. « Je sais, tu vois ? Je sais qui tu es. Tu es l'autre. Trois gènes, l'a dit à Molly, le buisson ardent. Ce n'était pas muet d'hiver, c'était toi. Il a bien essayé de m'avertir avec le brône. Maintenant, tu m'as cramé. Tu m'as amené ici, nulle part, avec un spectre. Le spectre du souvenir que j'ai conservé d'elle. » Elle s'agita dans son sommeil, cria quelque chose, ramenant un pan de couverture sur son épaule et sa joue. « Tu n'es rien du tout, » dit-il à la fille endormie. « Tu es morte de toute manière. T'as jamais signifié grand-chose pour moi. T'entends ça là-haut, mon pote ? Je sais ce que tu fais. Je suis en très plat. Tout ça n'a pris qu'une vingtaine de secondes, pas vrai ? Je suis toujours implanté dans cette bibliothèque et ma cervelle est morte. Et dans pas longtemps, l'autre sera bien mort aussi, si t'as deux sous de jugeote. T'as pas envie que Meux d'hiver réussisse son plan, un point c'est tout. Alors t'as qu'à me laisser mariner ici. Dixie fera tourner le Kuang. Seulement, il est déjà mort, lui. Alors, tu risques pas de deviner ses mouvements. Ça, c'est sûr. Cette machination merdique avec Linda. C'était toi depuis le début, non ? Meux d'hiver a bien essayé de se servir d'elle quand il m'a branché dans sa reconstitution de Chiba. Mais lui, il n'y était pas arrivé. Disait que c'était trop du rail. C'est toi qui as chamboulé les étoiles autour de zones libres, n'est-ce pas ? Toi qui as plaqué son visage sur la poupée morte dans la chambre d'Ashpool. Molly ne s'en est jamais aperçue. T'as eu qu'à bidouiller son signal de Simstim. Parce que tu t'imagines me faire du mal ? Parce que tu t'imagines m'avoir emmerdé ? Eh bien, tu peux aller te faire enculer, qui que tu sois. T'as gagné, tu gagnes, d'accord. Mais rien de tout ça ne signifie plus rien pour moi maintenant, vu ? Tu crois peut-être que j'en ai quelque chose à secouer, hein ? Alors, pourquoi me faire un plan pareil ? Il tremblait de nouveau, la voix devenue perçante. « Chérie, » dit-elle en se dégageant de l'amas de couverture enroulée, « viens donc te coucher. Je veillerai si tu veux. Il faut que tu dormes, d'accord ?» Le sommeil accentuait la douceur de son ton. « Juste que tu dormes, d'accord ?» Lorsqu'il s'éveilla, elle était partie. Le feu était éteint, mais il faisait chaud dans la casemate. La lumière du soleil entrant en biais par l'ouverture de la porte pour jeter un rectangle d'or déformé sur le flanc éventré d'une grosse caisse en fibre. C'était un conteneur maritime. Il se rappelait avoir vu les mêmes dans les docks de Chiba. Par la déchirure latérale, il pouvait apercevoir une douzaine de paquets jaunes brillants. Sous les rayons du soleil, on aurait cru des plaquettes de beurre géantes. La faim lui donnait des crampes d'estomac. Roulant hors du nid, il s'approcha de la caisse et y piocha l'un des objets. Il dut cligner des yeux pour déchiffrer les petits caractères inscrits en une douzaine de langues. L'anglais était tout en bas. Ration de survie, protect, ranf, bœuf, type AG8. Suivait la composition avec la liste des éléments nutritifs. Il sortit à tâtons un second paquet. Si tu braques tout ce décor merdique, lança-t-il, tu pourrais au moins y foutre de la vraie bouffe de temps en temps, non ? Un paquet dans chaque main, il partit visiter les quatre pièces de la structure. Deux étaient vides, en dehors des débris et du sable, et la quatrième contenait d'autres caisses de vivres. « Bien sûr, » fit-il en caressant les verrous. « Restez ici un bout de temps, je comprends l'idée, bien sûr. » Il fouilla la pièce avec l'âtre, découvrit un bidon de plastique empli de ce qu'il supposa être de l'eau de pluie. À côté du nid de couverture, contre le mur, était posé un briquet jetable rouge, un couteau de marin au manche vert fendu et son fichu. Il était encore noué et raide de sueur et de poussière. Il se servit du couteau pour ouvrir les paquets jaunes, versant leur contenu dans une boîte de conserve rouillée dénichée près du poêle. Il le trempa d'eau du bidon, mélangea la pâte obtenue avec les doigts et la mangea. La mixture avait un vague goût de bœuf. Quand il l'eut terminée, il jeta la boîte vide dans le feu et sortit. La fin de l'après-midi, vu l'aspect du soleil et sa hauteur à l'horizon, avec ses pieds, il ôta ses chaussures de nylon trempées et fut surpris par la chaleur du sable. À la lumière du jour, la plage était gris-argent. Le ciel était sans nuages, bleu. Il contourna le bunker et se dirigea vers les vagues, laissant tomber sa veste sur le sable. « J'ai pas des souvenirs de qui tu te sers pour ce truc, » fit-il en atteignant les vagues. Il enleva son jean et l'expédia d'un coup de pied dans l'eau peu profonde, bientôt suivi du t-shirt et du slip. « Qu'est-ce que tu fous, Kez ?» Il pivota et la découvrit 10 mètres plus bas sur la plage, l'écume blanche lui glissant autour des chevilles. J'ai pissé dans mon froc l'autre nuit. Eh bien, tu vas pas remettre ces fringues. C'est de l'eau salée. Tu risques des plaies. Je te montrerai ce trou d'eau là-bas dans les rochers. Elle indiqua une vague direction derrière elle. C'est de l'eau douce. Son treillis délavé avait été raccourci au-dessus du genou. La peau en dessous était lisse et brune. Un coup de vent lui ébouriffa les cheveux. Écoute, dit-il, récupérant ses vêtements avant de se diriger vers elle. J'ai une question à te poser. Je ne te demanderai pas ce que tu fais ici, toi, mais à ton avis, ce que moi je peux bien y foutre. Il s'arrêta, une jambe de jean noir, et trempé, battant sa cuisse nue. Tu es arrivé cette nuit? Elle sourit. Et ça te suffit? Je suis arrivé, c'est tout? Il l'avait bien dit que tu allais venir, fit-elle en fronçant les sourcils. Elle haussa les épaules. Il sait les trucs dans ce genre, je suppose. Elle leva le pied gauche pour essuyer le sable de son autre cheville, en un geste maladroit, enfantin. Elle lui sourit à nouveau, plus timidement. « Maintenant à ton tour de me répondre, Dak ?» Il acquiesça. « Comment que ça se fait que tu sois tout barbouillé de crème bronzante, partout, sauf sur le pied ?»« Et c'est la dernière chose dont tu te souviennes ?» Il la regarda gratter les dernières miettes de hachis lefilisés au fond du couvercle rectangulaire de la boîte en tôle, qui constituait leur unique assiette. Elle acquiesça, prunelle agrandie à la lueur du feu. « Je suis désolé, Kez, juré. C'était simplement la merde, je suppose, et puis c'était. » Elle se pencha, avant-bras noués autour des genoux, les traits déformés durant quelques secondes par la douleur ou par son souvenir. J'avais simplement besoin de fric pour rentrer chez moi, je suppose, ou... Et puis merde, c'est à peine si tu voulais me causer. Y a pas de cigarette ? Bordel de merde, Kez ! Ça fait au moins 10 fois que tu me demandes ça. Qu'est-ce qui va pas ? Elle tordit une mèche de ses cheveux qu'elle se mit à mâchonner. Mais les vivres étaient ici déjà ? Enfin merde, je te l'ai expliqué, mec ! L'océan les a rejetés sur la plage. « Bah voyons, tout baigne !» Elle se remit à pleurer, sanglots sans larmes. « Oh, et puis va te faire foutre, Kez !» parvint-elle enfin à dire. « Après tout, je me débrouillais très bien ici toute seule. » Il se leva, prit son blouson et se rua dehors, s'éraflant au passage le poignet contre le béton rugueux de l'embrasure. Il n'y avait ni lune ni vent, et le bruit de la mer le submergea dans l'obscurité. Son jean le collait gluant. « D'accord, lança-t-il, face à la nuit. D'accord, je marche. Je suppose que je marche. Mais demain, vaudrait mieux me débarquer quelques clopes. » Son propre rire le surprit. « Et une caisse de bière ferait pas de mal, tant que tu y es. » Il fit demi-tour et réintégra la casemate. Elle remuait les braises avec un bâton en bois argenté. « Qui était-ce, Kez, là-haut dans ton cercueil à l'hôtel Écho ? Cette espèce de samouraï, frimeuse en cuir noir avec les verres argent. La trouille qu'elle m'a foutue, tu sais. Et puis après coup, je me suis dit que c'était peut-être ta nouvelle poule, sauf qu'elle avait l'air nettement au-dessus de tes moyens. » Elle le regarda de nouveau. « Je suis franchement désolé de t'avoir piqué ta mémoire vive. » « Laisse tomber, » répondit-il. « Vraiment aucune importance. Alors, tu l'as amené à ce mec et tu l'as laissé y accéder pour toi ?»« Tony, on se connaissait plus ou moins. » Il avait une manie et je me rappelle qu'il l'a fait tourner. Et sur son moniteur, on voyait des trucs graphiques vraiment dingues. Et je me souviens qu'alors, je me suis demandé comment tu... Il l'interrompit. Il n'y avait aucun programme graphique là-dedans. Un peu, si. Même que j'arrivais pas à piger comment tu pouvais avoir obtenu toutes ces images du temps où j'étais petite, Kez. L'allure de mon père avant qu'il s'en aille. M'avait donné ce canard une fois, un canard en bois peint. Eh bien, même ça... T'en avais une image. Tony l'a vu ? Je me souviens pas. Juste après, je me suis retrouvé sur la plage, au petit jour. Le lever du soleil, avec tous ces oiseaux qui criaient, et si abandonné. Affolé, parce que je n'avais pas eu mon shoot, rien de rien. Et que je savais que j'allais être malade. Et j'ai marché et marché jusqu'à la nuit. Et j'ai trouvé cet endroit. Et le lendemain, la mer a rejeté les vivres, tout emmêlés dans des espèces d'algues vertes, qu'on aurait cru des feuilles de gélatine figée. Elle fit glisser sa branche dans la braise et l'y abandonna. « Jamais été malade, » dit-elle, tandis que les braises gagnaient en rampant. « C'est les clopes qui m'ont manqué le plus. Et toi, Kez, toujours câblé ?» Lueur du feu dansant sous ses pommettes, rappel éclair du château du magicien et de la guerre des blindés en Europe. « Non, » fit-il. Et puis soudain, toutes ces certitudes n'avaient plus aucune importance devant le goût de sel de sa bouche, là où les larmes avaient séché. Il sentait une force qui courait en elle, une force qu'il avait déjà connue dans la cité de la nuit, quand il la tenait, et qu'elle le tenait pour retenir l'espace d'un instant, le temps et la mort, retenir la rue infatigable qui les traquait tous. C'était un lieu déjà connu de lui. Tout le monde ne pouvait pas l'y conduire, et quelque part, il parvenait toujours à l'oublier à nouveau. Une chose qu'il avait trouvée, puis perdue, tant et tant de fois. Qui appartenait, il le savait, ça lui revenait tandis qu'elle l'attirait vers lui, à l'univers de la viande, à cette chair que les cow-boys raillaient tant. C'était une vaste entité, dépassant l'appréhension, une mer d'informations codées dans la spirale et les phéromones, dédale infinie que seul le corps, avec sa force aveugle et pataude, était en mesure de lire. La fermeture à glissière se bloqua, coincée, lorsqu'il ouvrit son treillis, pan de nylon dentelé collé de sel. Il la brisa, quelques minuscules fragments de métal allèrent claquer contre le mur au moment où cédait le tissu pourri par le sel, et voilà qu'il était en elle, pour opérer la transmission de l'antique message. Ici, même ici, en ce lieu qu'il connaissait pour ce qu'il était, le modèle codé du souvenir de quelque étranger, la pulsion tenait toujours. Elle frissonna contre lui lorsque la branche prit feu. flammes jaillissantes, qui projeta leurs ombres entrelacées contre le mur du bunker. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble, lui, ses mains glissées entre ses cuisses, il se souvint d'elle sur la plage, l'écume blanche lui léchant les chevilles, et ses paroles lui revinrent. « Il t'a dit que j'allais venir » fit-il. Mais elle se contenta de rouler contre lui, les fesses collées contre ses cuisses, et ramena sa main sur elle en marmonnant quelque chose dans son rêve.